Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main Vous Fasse. Déménager, c'est mourir un peu, perdre une part de soi, c'est un arrachement, surtout quand on est forcé de quitter son logement en raison des vicissitudes de l'existence, comme une séparation ou un licenciement. Benjamin Franklin disait d'ailleurs que 3 déménagements valaient un incendie, c'est dire le choc du déménagement vécu par nombre d'entre nous. Mais pourquoi déménager provoque-t-il un tel stress, au-delà des questions logistiques bien légitimes? Pourquoi cet événement produit-il un tel maelstrom d'émotions fortes? Pourquoi certains éprouvent tant de mal à rompre avec leur ancien chez-soi? Nous explorerons cet après-midi tous les enjeux du déménagement dans leur dimension psychologique et pratique. Comment ne pas le rater et surtout comment bien le vivre? Mes complices cet après-midi, Marie-Laure Sunshine de Femme Actuelle et Éric Libiot. Bienvenue dans Grand Main Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien Vous Fasse.
Alors pour évoquer le stress du déménagement, 2 invités. Bonjour Marie-Claude Gavard.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre, psychothérapeute et psychanalyste et vous avez notamment publié chez Marabout « Mais qu'est-ce qui se passe dans ma tête ?» Bonjour Claire Marin.
Bonjour.
Vous êtes écrivaine et philosophe et vous avez publié il y a quelques mois un excellent livre « Rupture » aux éditions de l'Observatoire. Vous étiez venu d'ailleurs dans l'émission pour nous le présenter. Alors Laure Robert nous dit que déménager, c'est changer de logement, c'est transporter des objets d'un logement à un autre. Synonyme: vider, débarrasser, démeubler, partir, s'en aller, vider les lieux. Docteur Marie-Claude Gavard, pour nombre d'entre nous, c'est très dur, c'est très difficile de vider les lieux.
Ah oui, alors quand on dit vider les lieux, c'est vraiment très matérialiste et ça ne représente pas ce qui se passe dans notre tête, parce qu'en fait il y a une rupture entre tout ce qui s'est passé dans cet endroit-là, l'investissement à tous les niveaux, que ce soit affectif, social, donc il y a une rupture, il va y avoir un changement, alors tout dépend de la raison de ce déménagement. Si c'est une chose heureuse, il y a tout de même cet arrachement et une page qui tourne à considérer. Et si c'est une cause comme un licenciement, un deuil, un divorce, là, s'ajoutent des sentiments très difficiles à gérer souvent et qui entraînent un stress. On dit d'ailleurs que le stress du déménagement est le 3e stress après le deuil et le licenciement.
Marie-Laure Sunshine, Femme Actuelle, vous avez des chiffres, je crois.
Oui, absolument, ce que vient de rappeler Marie-Claude Gavard. J'ajouterais quand même 6 millions de personnes déménagent chaque année. Et puis il y a ce phénomène, vous savez, dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui sont ces néo-ruraux, ces citadins qui en ont assez de la ville et qui sont de plus en plus nombreux à vouloir quand même changer d'air, changer de qualité de vie. Donc on voit, certes, c'est un stress, mais ceux-là sont quand même très nombreux à vouloir passer à autre chose. Et vider, mais pour le mieux, on va dire.
Oui, alors vider pour le mieux, mais ils ne vont pas faire l'économie d'une adaptation nouvelle, parce que passer de la ville à la campagne, il y a vraiment un mode de vie totalement différent. Il faut qu'ils aient déjà les moyens, qu'ils aient beaucoup réfléchi à ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont changer et ce qu'ils vont perdre, ne serait-ce qu'au niveau de l'organisation, des sorties, évidemment, comme dans tous les déménagements, les amis, les commerçants, etc. Mais là, une grande différence de mode de vie demande une préparation intense.
Docteur Marie-Claude Gavard, je m'adresse là à la psychanalyste. L'une des définitions de déménager, c'est déraisonner.
Alors déraisonner, oui, absolument. Et en fait, il est important pour chacun de faire le point des avantages et des inconvénients et surtout de tout ce que ça va changer. Parce qu'on revisite son passé, on revisite les bons moments et les moments difficiles. Et souvent, bon, il y a une période de tri. Alors le tri peut être heureux, mais il fait revivre, comme dans un champ un peu hypnotique, il fait revivre les choses que l'on a vécues avec tous les sentiments qui rejaillissent.
On reviendra tout à l'heure sur cette question du tri. Claire Marin, le premier déménagement, la première rupture, c'est notre venue au monde. Quand on quitte la matrice maternelle, ce cocon bienfaisant, pour être expulsé dans un monde froid et pas toujours rassurant.
Oui, on pourrait dire que c'est finalement ce lieu-là qu'on essaye idéalement de reconstruire à chaque fois qu'on déménage. C'est ce que dit Bachelard, qui écrit un texte sur la poétique de l'espace. Et il dit qu'on cherche une maison natale, une maison première qui serait comme un cocon, un nid. Et à chaque fois qu'on déménage, si c'est là encore une initiative décidée et heureuse, on a cet espoir qu'on va réussir à trouver ce nid où Bachelard dit on pourra se blottir, puisqu'il dit c'est la meilleure manière d'habiter. Quand on déménage, on essaye aussi d'habiter autrement et d'investir un espace d'une manière encore plus personnelle.
Marie-Claude Gavard.
Et d'ailleurs, dès que l'on déménage, on a tout intérêt à remettre nos objets familiers, comme des photos, comme de la déco, pour se sentir encore un peu chez soi, hein, comme avant.
Claire Marin, vous l'expliquez bien dans votre livre Rupture. Nous vivons une ère de rupture et les Français déménagent de plus en plus, hein, à cause évidemment de la mobilité professionnelle, des séparations amoureuses et des conditions économiques dégradées.
Oui, et puis il y a peut-être cette illusion que être nomade a quelque chose de léger, de joyeux, qu'on n'a pas un ancrage pesant, lourd, etc. En réalité, cette instabilité des lieux personnels, elle est précisément un peu dérangeante et déstabilisante. On a quand même sans doute besoin de lieux qui fonctionnent comme des repères, comme des éléments stables auxquels on se raccroche et dans lequel on construit aussi son histoire.
Alors déménager, c'est une rupture forte avec un avant et un après, un avant et un après qui s'incarnent dans des cartons.
Oui, Marie-Claude l'a très bien dit. Le déménagement, c'est le moment où on est confronté à notre mémoire, à notre passé. Et effectivement, ça peut être à ce moment-là assez douloureux. Et puis, parfois, la maison change de sens et change de qualité, ou presque de couleur. C'est-à-dire, quand dans le cadre d'un deuil ou d'une séparation, la maison qu'on habitait ensemble, elle devient une maison hantée de souvenirs qui sont des tortures.
Et d'ailleurs, on voit l'importance de l'ancrage dans les résidences secondaires familiales, où les enfants passent tous leurs étés à retrouver les copains, qu'ils soient petits, ensuite ados, etc. Et là, c'est difficile quand les parents ou les grands-parents vendent cette maison. Il y a un deuil familial et là, on a l'impression que les racines sont coupées.
Éric Libieux, vous avez-vous le déménagement plutôt heureux ou malheureux ?
Bon, non, plutôt heureux. J'étais en train de me poser la question de ça. Il y a quand même des déménagements où, pour des raisons sociales, affectives, intimes, on passe d'un deux pièces à un trois pièces. Enfin, il y a une espèce d'accès à une vie de famille, une ascension sociale, donc quelque chose qui est plutôt positif. Parfois, ça, j'imagine que ça se passe aussi plutôt bien. Il y a aussi ça.
Oui, tout à fait. Alors, c'est très souvent heureux puisque c'est l'avenue d'un enfant, c'est le mariage ou la vie de couple. C'est très souvent heureux. Cela étant dit, il y a l'adaptation qui est nécessaire. Et donc, même s'il y a des choses très heureuses, il y a les repères qui ont changé et ça demande tout de même un effort.
Bonjour Jocelyne, bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes mariée à un médecin militaire depuis 32 ans, Jocelyne, et je crois savoir que vous avez à votre actif 14 déménagements, c'est ça ?
Oui. Bon, un de complaisance, entre guillemets, parce qu'on est arrivé dans un lieu où on n'avait pas trouvé de logement. Mm-hmm. J'avais que deux enfants. Mm-hmm. Et je suis tombée enceinte entre-temps. La maison se trouve petite. On a déménagé pour la naissance. Et puis, 9 mois plus tard, on déménageait pour une mutation.
Mm-hmm. Alors, vous avez 6 enfants. Jocelyne, comment ça se passe de déménager avec une famille nombreuse, je crois savoir, tous les 2 ou 3 ans, c'est ça ?
Une fois, on a fait 18 mois quand même. Mm-hmm. En moyenne, c'est 3 ans, oui. Mmh. On a été une fois 4 ans dans une garnison, mais généralement c'est 2-3 ans, oui.
Comment ça se passe justement psychologiquement, vous dites que c'est pas simple, pour les enfants. Comment ils vivent cet arrachement, Jocelyne ?
Nous, quand on a l'information du déménagement, on le sait en moyenne en janvier pour l'été. Donc on en parle entre nous, mon mari et moi. Et puis après, on anticipe les questions des enfants. Donc je vais sur place. Je vais voir les maisons, les écoles, collèges, lycées, écoles, etc. Et quand on a vraiment l'information que c'est confirmé qu'on est muté, on le sait en général en mai. Et du coup, c'est là qu'on annonce aux enfants, grosso modo, où est-ce qu'on part. Et du coup, quand ils ont des questions, on a déjà les réponses sur les écoles, sur la maison. Et souvent, il y a des fuites, donc un peu avant la date officielle du déménagement. Et là, c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas toujours les réponses à donner aux enfants.
Comment vos enfants vivent ces arrachements à des lieux, à des amis et est-ce qu'ils ont intégré ces ruptures récurrentes qui arriveront de façon irrémédiable ?
Alors sincèrement, sur les 6 enfants, aucun n'a intégré le fait qu'il faille déménager. Mmh. Ça a toujours été assez compliqué de leur expliquer qu'il faut partir, c'est le boulot de papa, etc. Pour moi, c'est pas un problème parce que je change de métier, je travaille pas, je me réadapte. Les enfants, ils ont leur cercle d'amis, ils ont leurs activités scolaires, parascolaires. ils ont un noyau déjà qu'ils ont mis un an à se faire, et puis dès qu'ils ont un noyau d'amis qui s'est fait, bah, un an après on leur dit on repart et il faut tout recommencer, réinstaller, revider sa chambre, réinstaller sa chambre, se refaire des amis. Et le plus dur c'est au lycée quand ils sont en seconde, première, là c'est très 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 casse-pied à gérer.
Est-ce qu'ils ont appris à ne pas trop s'attacher?
Non, c'est dommage de ne pas s'attacher. Mmh. En fait, on a intérêt à s'attacher tout de suite, parce que ça passe tellement vite que si on s'attache pas tout de suite, on s'investit pas tout de suite dans l'endroit où nous sommes arrivés, et ben c'est une perte de temps pour tout le monde.
L'aspect positif.
Je ne pense pas qu'on puisse ne pas s'attacher.
L'aspect positif, c'est que vos enfants ont développé un super réseau d'amis et de camarades.
Ah, ça c'est sûr. Mmh. Il faut qu'on reparte en vacances chez des amis qu'ils ont connus, de Brest à Metz, de Lyon à Lille, etc. Donc partout où ils vont, ils ont une maison qui les accueille. Et pareil, comme on reçoit les amis des enfants, ils viennent de partout, c'est très agréable.
Docteur Marie-Claude Gavard, comment on s'y prend pour préparer psychologiquement les enfants au déménagement?
Alors, on doit effectivement leur donner autant de renseignements que possible, les faire participer, leur montrer l'endroit, le quartier, voire leur montrer l'intérêt. Mais il est important de ne pas nier ce stress qu'ils vont avoir, cette douleur de la rupture, de l'abandon des amis. Et d'ailleurs, en thérapie, moi, je vois souvent des adultes qui, très rapidement, me disent qu'étant enfants de militaires, ils ont dû déménager tous les 3 ans et que c'est un réel problème et qu'ils n'aimeraient pas refaire ça.
Claire Marin, sur le témoignage de Jocelyne.
Oui, on voit bien comment le fait de pas avoir peut-être un ancrage fixe est déstabilisant, et en particulier dans un processus où on se construit et où du coup tous les repères changent sans cesse.
Jocelyne, restez avec nous, vous nous direz tout à l'heure comment ça se passe d'un point de vue pratique de déménager 14 fois. Claire Destacan, Clara Marlio et Julia Macarez m'ont aidé à préparer cette émission, réalisée par Stéphanie Texier. On écoute un titre de 1986, l'année de la disparition de Coluche et de Jean Genet, et de la naissance de Maître Gims. Étienne Daho et Paul Tatou.
J'ai des bons souvenirs finalement dans cet appartement.
Grand bien vous fasse.
Ah non, attends, tu vas voir la nouvelle maison, comme on s'y sent bien. Quand on y est, on n'a plus envie de bouger.
Sur France Inter.
Et cet après-midi, on s'intéresse au stress du déménagement en compagnie de la psychiatre Marie-Claude Gavard et avec la philosophe Claire Marin.
Bon, merci d'être venu, les gars, hein, c'est cool. Le camion arrive dans 8 heures.
Non, mais ça va aller vite, là. T'as quoi? T'as deux armoires, un bureau. Ouais. Commence par quoi?
Je te répète, je m'occupe de tout. C'est déjà mieux que la dernière fois, non?
Oh, bah, je vois pas comment ça pourrait être pire. Personne n'a voulu nous aider, on a mis 2 semaines avec ta 4L.
C'est bon, j'ai descendu le frigo, tout seul. 6 étages.
Non, mais t'es con, le frigo, je t'ai dit que je le laissais là, hein.
Ah, bah, c'est pas grave, je vais le remonter.
On sait que ça va être dur, mais on se rend pas compte à quel point ça va être dur. C'est très dur.
Je vais t'expliquer, tu vas voir, c'est très très simple. En fait, tu prends un carton là, tu prends une photo, tu la mets dans le fond, tu prends une deuxième photo, tu la mets par-dessus et tu continues à en plier comme ça jusqu'à ce que le carton soit plein.
Dis donc, Jean-Jacques.
Ouais.
Les deux pantalons là, tu rentres dedans ou tu
rentres? Je rentre plus dedans.
Bon, allez, je vais t'emmener ton pieu, t'as qu'à me le mettre sur le tas du 4x4.
Ah, d'accord, et comment je vais le descendre? Tu vas m'aider peut-être?
Un, je vais t'aider, et deux, je sais pas, les déménageurs, ils ont pas laissé du matos? Y a pas un chariot, y a pas des sangles?
Si, si, y a tout ça là. T'as le droit à quel pourcentage de perte humaine là sur ce déménagement là?
Et voilà les gars, c'est fini.
Je suis claqué, moi.
Ah ouais, t'as rien branlé.
Bon, petite bière les gars?
Allez, tu bière, ouais.
Montage signé Stéphanie Texier. Alors, docteur Marie-Claude Gavard, je rappelle que vous êtes psychiatre et psychanalyste. Ce qui stresse dans un déménagement, c'est bien sûr l'aspect pratique. L'ampleur de la tâche peut donner envie de remettre au lendemain, de procrastiner, sauf que on ne peut pas.
Ah non, parce que souvent il y a un jour dit où les déménageurs vont arriver, où tous les amis vont arriver. Donc alors la procrastination, c'est vraiment ne pas vouloir se confronter à ce trouble qui est le tri aussi, et cette idée qu'on va changer de lieu et qu'on va vers l'inconnu.
Le tri, c'est un désencombrement.
Alors, c'est un désencombrement
spirituel et matériel.
Complètement, si on est capable de le faire. Si à chaque fois qu'on jette quelque chose, c'est un deuil, l'énergie perdue est quand même énorme et peut-être qu'il peut y avoir un petit début de dépression à la limite.
Claire Marin, vous êtes philosophe sur le tri. C'est une rupture, hein. Je rappelle que vous avez publié l'ouvrage Rupture.
C'est même parfois un déchirement, et c'est là où on voit à quel point les objets sont loin d'être neutres, sont très investis affectivement. Et là encore, ils sont pleins de passé, donc on a du mal à s'en défaire.
Jocelyne, vous êtes toujours avec nous. Je rappelle que vous êtes mariée à un militaire, hein, vous avez effectué 14 déménagements. Comment ça se passe d'ailleurs d'un point de vue pratique, vos déménagements? Expliquez-nous un petit peu.
En fait, pour moi, c'est très compliqué parce que quand on est marié à un militaire ou qu'on est militaire, on a droit à un certain cubage que l'administration vous paye. En l'occurrence, si on est marié, on a 2 enfants, on a droit à 50 mètres cubes. Si on a 6 enfants, on a 90 mètres cubes. Et notre problème à nous, c'est quand les enfants commencent à partir, ils font des études ailleurs ou ils se marient, ben nos droits à cubage sont réduits. Donc je passe de 90 mètres cubes à 50 mètres cubes, mais mes enfants viennent toujours le week-end chez moi, on les reçoit pour les fêtes, pour les anniversaires. Ils n'ont pas, en fait, on ne peut plus garder leur lit, leur linge de maison, etc. Et pour nous, c'est très compliqué à gérer parce qu'il faut se débarrasser, entre guillemets, du surplus par rapport au cubage que l'administration nous rembourse. Et en même temps, il faut qu'on puisse accueillir les enfants. Donc, c'est vraiment un casse-tête pour toutes les familles de militaires. C'est le gros casse-tête du déménagement. C'est comment garder le minimum, en fait le maximum, en ayant des droits à cubage et au remboursement de l'armée. Parfois, on est souvent de notre poche, hein, quand on fait des déménagements sur 2 lieux distincts, parce qu'il y a le lieu de mutation et le lieu de repli définitif, ben, c'est notre poche aussi. Et c'est des sommes assez exorbitantes. On est pour 4 000, 5 000 euros quand même sur un déménagement pour une famille de 3-4 enfants.
Marie-Laure Zonshine, de Femme Actuelle.
Oui, on peut peut-être préciser, puisque vous évoquiez l'aspect financier d'une mesure qui est toute récente, qui concerne les personnes qui déménagent pour raisons professionnelles. Alors, Action Logement, qui est l'ancien 1% logement, accorde une prime de 1 000 euros aux plus modestes pour aider à financer le déménagement. Ça concerne quand même 100 000 salariés, on peut le préciser.
Alors, beaucoup de témoignages par courriel ou sur notre page Facebook. Barbara qui nous dit « J'ai déménagé l'année dernière avec le stress qui accompagne un déménagement. Une fois installé, mon fils de 10 ans, habituellement très zen, nous a annoncé solennellement qu'il ne quitterait jamais cette maison parce qu'un déménagement, c'est beaucoup trop stressant. Inès nous dit « Pour ma part, c'est un véritable bonheur de déménager. Je ne pense jamais au lieu que je quitte, mais plutôt à celui que je vais découvrir. Quoi de mieux que de déambuler dans les rues de son nouveau quartier à la recherche de bonnes adresses. Eva nous dit, nous préparons nos cartons en ce moment. C'est beaucoup d'émotions. Difficile de mettre son logement en vente et de le faire visiter, car c'est notre intimité. Marie-Claude Gavard.
Oui, et d'ailleurs, très fréquemment, les propriétaires qui veulent vendre leur appartement ne sont pas là lors des visites, parce que les critiques des visiteurs qui veulent souvent simplement faire baisser le prix sont très blessantes.
Blessure narcissique.
Sensation de ne pas être compris, de ne pas être valable, une dévalorisation, etc. Donc, les agences à ce niveau-là sont un moyen bien agréable de ne pas avoir à subir ça.
Bonjour Séverine.
Oui, bonjour.
Bienvenue. D'où appelez-vous Séverine ?
De Versailles.
Alors, racontez-nous un petit peu, vous avez déménagé il y a un an, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. Alors, on habitait dans une très jolie maison ancienne qu'on avait retapée avec beaucoup d'énergie, beaucoup de nous-mêmes dans cette maison. Elle était très chouette. On a vécu des choses pas très faciles au bout de 10 ans dedans, avec les enfants. Et donc, moi, j'avais envie de déménager. Donc, j'ai cherché une maison avec un jardin, on n'en avait pas avant. J'ai trouvé une maison et ensuite, il a fallu qu'on mette en vente notre maison, notre ancienne maison. Mon mari était pas très chaud pour déménager au départ. Quand j'ai trouvé la nouvelle maison, il a dit « Ah bon, elle est chouette, allez, ok, d'accord, on déménage. » Et donc, quand j'ai mis en vente la maison, l'agent immobilier a organisé des visites. Le premier jour, quand la maison a été vendue, le premier visiteur l'a acheté. Et donc, je dis à mon mari « Super, ça y est, c'est vendu. » Et là, il est tombé dans le canapé, il était complètement accablé. Il me dit, mais non, c'est pas possible. Je dis, bah si, c'est ce qu'on voulait, puisqu'on a cette autre maison qui nous attend, on a acheté, on a investi, on n'a pas d'argent. Et là, il était complètement effondré et il m'a dit, c'est comme si tu avais vendu un de mes enfants.
Ah oui.
C'était d'une violence pour montrer tout l'affect qu'il y avait dans cette maison et le fait de quitter cette maison et de la vendre, parce que tout d'un coup, ça devenait concret. Il était effondré. Et bon, voilà, on a quand même vendu. Et après, une fois qu'on a été dans l'autre maison, il s'est super investi dedans. Ça a été concret. Il y a pris du plaisir et il m'a envoyé un message un jour. Il était à l'étranger. Il m'a envoyé un message en disant je ne te remercierai jamais d'avoir poussé pour acheter cette maison. On y sera heureux. Et voilà, la page s'est tournée. Mais c'est pour montrer la résistance des hommes. Je pense que quand c'est pas concret, quand ça touche à leur affect, voilà. C'était comme un de ses enfants. J'ai trouvé ça très très violent.
Témoignage très fort de Séverine, hein, Marie-Claude Gavard.
Oui, alors dire que c'est une caractéristique des hommes, je pense que c'est peut-être un peu trop dire. Mais on voit qu'il y a eu un investissement de cette maison qui a été un nid, vraiment le cocon, que ce soit de la part du mari ou de la femme. Et le mari n'était pas prêt à quitter ce nid. Maintenant, il en a fait un autre. D'ailleurs, cette dame dit bien qu'il s'est réinvesti dans la maison en refaisant des choses. Donc, ils ont changé de nid. Mais la rupture a été un peu brutale. Et justement, la malchance d'avoir vendu au premier visiteur, peut-être.
Claire Marin, sur le témoignage de Séverine.
Oui, ben là, on voit bien comment chacun investit aussi différemment l'espace. Et là aussi, il y a des temporalités propres. Et devoir quitter brutalement quelqu'un ou un lieu ou un travail, c'est parfois vécu effectivement comme quelque chose de traumatisant.
Merci beaucoup Séverine pour votre beau témoignage. Jocelyne, vous comprenez la réaction du mari de Séverine ?
Alors, si je peux me permettre un témoignage vraiment personnel par rapport à nos enfants. Mmh. Mon mari, c'est pas un problème parce que c'est lui qui est muté. Donc, c'est lui qui prend l'annonce en premier. C'est lui qui nous l'annonce, qui me l'annonce. Et puis, ça fait effet vague après sur la famille. Moi, j'ai eu le problème avec des enfants qui étaient au lycée. Mon aînée, elle voulait pas du tout changer d'école tous les 2 ans parce que c'est elle qui a subi, entre guillemets, le plus de déménagements sur de très courtes durées. 2 ans, 18 mois, 3 ans, une mutation au fin fond d'une tribu en Nouvelle-Calédonie, une mutation. C'est elle qui a subi le plus dans les déménagements. Et arrivée en troisième, elle me dit, maman, je ne bouge plus. Elle pouvait plus non plus rester là où on était. Il fallait qu'elle bouge. Donc, elle a fait le choix d'aller en internat dans un lycée militaire à Aix-en-Provence. D'ailleurs, chapeau au lycée militaire qui accueille des familles qui sont comme ça aussi nomades que nous. Et donc, mon aînée est partie au lycée militaire pour ne plus bouger, pour faire tout son lycée au même endroit, parce qu'elle n'a jamais fait plus de 2 ans dans un même établissement scolaire. Et le second, lui, bon, ceci étant, au bout de 2 ans, elle avait envie de nous retrouver, le 6e enfant aîné, elle voulait voir la petite sœur, donc elle s'est rapprochée de nous, elle est revenue, elle a quitté son lycée. Comme quoi, voilà, parfois les enfants aussi changent d'avis. Donc, elle a quitté son lycée pour la terminale, elle nous a rejoints. Et le second, lui, il était aussi au lycée entre première et terminale. Alors lui, c'est très folklorique. Il a été chercher parmi ses amis qui veut bien l'accueillir pour faire sa terminale. Il ne viendrait pas avec nous. Il a décidé solennellement qu'il ne déménagera pas. Il a contacté les parents de ses amis. Il s'est assuré une année scolaire chez des familles par-ci par-là pour ne pas bouger. Il nous a annoncé qu'il ne déménagera pas. Bon, on a dû l'enlever entre guillemets à la fin des vacances d'un retour d'un camp scout. On l'a amené directement de Metz à Brest. Donc, vous voyez, il y avait quand même un grand saut. Donc, pour les aînés au lycée, c'était très, très compliqué. Maintenant, avec du recul, je le comprends beaucoup mieux. Les deux autres, ceux du milieu, ont eu la chance d'avoir un déménagement juste après le bac. Donc, il y en a un qui est rentré à la fac. Donc, de toute façon, il bougeait, il changeait des copains. Et sa sœur, donc la quatrième, idem, elle changeait après le lycée. De toute façon, elle changeait de lieu. Et c'est posé le problème pour la cinquième, un déménagement qui tombe entre seconde et première. Et là, on a fait un choix très, très, très difficile que je ne souhaite à personne. C'est le fameux célibat géographique. Ah oui. Mon mari est parti seul. Et je suis restée avec la cinquième et la sixième. Et c'est pas facile.
Jocelyne, vous restez avec nous. Vous êtes notre fil rouge. Vous qui avez effectué 14 déménagements, Marie-Laure Sunshine.
Oui, par rapport à ce que nous raconte Jocelyne. Alors, je ne sais pas si on peut le quantifier, mais c'est un vrai sujet. Ce sont le fameux mot de la sectorisation. Vous savez, des lycées, des parents déménagent pour cette unique raison. Évidemment, c'est un phénomène qui touche surtout les grandes villes. Il suffit de voir les annonces immobilières. C'est souvent mentionné comme étant un argument de vente ou de location pour que les parents changent. Et là, en fait, le vecteur, ça n'est que celui-là. C'est placer les enfants dans un bon état.
Oui, et donc les enfants subissent une rupture et eux ne sont pas forcément d'accord pour aller dans un lycée de renommée.
Allez, il est temps de retrouver les choses vues d'Éric Libiot.
France Inter.
T'es quoi, t'es médecin, psychiatre?
Grand bien vous fasse.
Psychothérapeute. Qu'est-ce qui me prouve que t'es psychothérapeute?
Choses vues.
Et je peux vous l'assurer, il n'est ni psychiatre ni psychothérapeute, Éric Libiot, et ces choses presque vues.
Pas grand chose d'ailleurs. Ouais. Oui, alors moi aussi j'ai déménagé sur France Inter, Ali vous l'avez dit tout à l'heure, je suis passé du vendredi au mardi, le proprio me l'a gentiment demandé, alors c'est vous le proprio. Et comme vous avez plusieurs appartements, un pour chaque jour, j'ai trouvé chaussures à mon pied, j'ai quitté ma colocataire, Guillemette Olicino, qui continue à escalader avec esprit son escalier, et me voilà le mardi, en alternance avec Christophe André, l'homme qui médite plus vite que son ombre et qui a vu plein de choses. Chose vue, c'est d'ailleurs le titre de sa chronique. C'est donc mon nouveau colocataire et puisque j'emménage en des lieux qu'il occupe déjà, je ne vais pas changer la couleur de la peinture du salon ni celle du canapé et je me contenterai de suivre ses pas et de signaler des choses presque vues. Car rien ne sera vrai dans ce que je dirais, ou peut-être tout, je ne sais pas encore, on verra. La réalité que raconte Christophe André, psychothérapeute comportementaliste, une profession qui quand même donne plein de points au Scrabble, dépasse toujours la fiction. Eh bien moi, j'essaierai de faire en sorte que la fiction reprenne un peu du poil de la bête. Ainsi, aujourd'hui, du déménagement qui crée des traumatismes, hein, tout le monde l'a dit, ne pourrait-on pas rêver à un déménagement idéal où tout se passerait bien, à commencer par la mise en carton qui ressemble parfois à une mise en bière, quoi jeter, quoi garder, et surtout, quelles choses mettre dans un carton qui resteront toujours dans un carton, des objets morts-vivants en quelque sorte, dont on finit par oublier l'existence. Faire les cartons, c'est une horreur, tout le monde le sait, et pour que la fiction vienne filer un petit coup de main à la réalité, j'imagine Mary Poppins redescendre sur Terre, telle la Messie, et que d'un claquement de doigts, comme dans le film de Robert Stevenson, tous les objets et tous les vêtements se rangeraient tout seuls dans un carton. Et ce n'est pas la méditation de Christophe qui serait capable de ça. Ensuite, Mary Poppins, grâce à son parapluie, s'en irait dans les airs, un carton dans la main, et puis un autre et encore un autre, pour aller les déposer là où j'habite maintenant. Avouez que ce serait merveilleux, Ali, mais il faut bien reconnaître que Mary Poppins n'existe pas. Il faut donc ne pas s'emballer et on est obligé de faire les cartons soi-même. S'emballer, carton, oubliez-le. Je suis bien sûr que je dis, Ali. Et de le transporter aussi soi-même. Je dis ça et pourtant, si Mary Poppins n'est toujours qu'une chose presque vue et donc imaginée, la réalité s'en est inspirée dernièrement. Ça s'est passé un 14 juillet. On a vu un homme voler au-dessus des Champs-Élysées, Franky Zapata, héros d'une révolution incroyable, puis on l'a vu aussi traverser la Manche en volant, mieux que le Messie qui se contentait de marcher sur l'eau, ce qui quand même prend beaucoup plus de temps. Franky Zapata intéresse l'armée, on l'a vu survoler les Champs-Élysées, un fusil d'assaut américain à la main, un M16 même pour le détail. Alors d'accord, c'était une arme factice, celle qu'on utilise dans les fictions au cinéma. Mais plutôt que d'en faire une arme de guerre, je verrais bien Franky Zapata jouer la Mary Poppins et se servir de son engin pour transporter non pas des armes mais des cartons de déménagement d'un lieu à un autre. Il est même possible que l'émerveillement provoquée par ce déménageur volant guérisse de tous les traumatismes. Réalité ou fiction, c'est toujours les mêmes histoires finalement, croire ou ne pas croire, là est la question.
Les choses presque vues d'Éric Libiot, c'est à voir également vidéo. Vous êtes aussi bon vendredi que le mardi, mon cher Éric Libiot.
Oui, mais je devrais faire moins bien la prochaine fois.
Et comme petit cadeau, Sonia nous envoie une citation de votre cher Georges Perec. Déménager, quitter un appartement, vider les lieux, décamper, faire place nette, débarrasser le plancher, inventorier, ranger, classer, trier, éliminer, jeter, fourguer, casser, brûler, détacher, couper, tirer, démonter, plier, couper, descendre, desceller, déclouer, décoller, dévisser, empaqueter, emballer, sangler, nouer, empiler, rassembler, entasser, ficeler, envelopper, protéger, recouvrir, entourer, serrer, enlever, porter, soulever, balayer, fermer, partir. Merci beaucoup Sonia pour cette citation de
si
Georges Perec.
C'est dans le bouquin « Pensée classée » de Georges Perec, qui est un merveilleux livre.
Qui est une merveille.
On apprend à penser et à classer.
Faye Webster interprété I Know I'm Funny. Ah.
Tu sais, je pense qu'il va falloir qu'on achète une nouvelle voiture et qu'on déménage, tu sais.
Grand bien vous fasse.
L'appartement, il est un peu petit, on est un peu à l'étroit ici.
Sur France Inter.
Et cet après-midi, on s'intéresse au stress du déménagement en compagnie de la psychiatre Marie-Claude Gavard et avec la philosophe Claire Marin. Alors, le psychanalyste Alberto Egger nous dit que déménager ressemblerait surtout à un détissage de fils psychiques, un détricotage de liens. Marie-Claude Gavard, le déménagement, ce n'est pas simplement une histoire de transport d'objets. On détricote tous les liens noués avec ses voisins, ses commerçants, les enseignants, les parents d'élèves, ses anciennes habitudes, ses routines.
Oui, alors c'est souvent de l'ordre du déchirement. Même si quelquefois quitter un lieu peut être très heureux parce que ça s'est pas forcément bien passé, mais donc il y a un détricotage, une revisite du passé, des sentiments vécus, des relations, et heureusement on a intérêt à penser qu'il y a un retricotage après. Alors évidemment, lorsqu'il y a des traumatismes comme les divorces, les deuils, etc., c'est très difficile de se projeter positivement dans un déménagement, mais ce détricotage permet une revisite et une meilleure connaissance de soi aussi.
Alors, je rappelle que vous êtes psychiatre et psychanalyste. Est-ce qu'on vient vous consulter parce qu'on vit mal un déménagement ?
Alors, pas exactement comme ça. On se sent mal. La personne ne va pas venir juste pour un déménagement. Elle va venir pour précisément s'être rappelé de choses qui l'ont angoissé, parler des angoisses qui se sont mises, qui ont été amplifiées par le déménagement. Mais le déménagement n'est pas un motif de consultation en tant que tel.
Laurence nous dit: mon pire déménagement, c'est celui auquel je n'ai pas pu participer car j'étais à l'hôpital avec ma fille de 10 jours qui avait une bronchiolite. Je me suis sentie déracinée, déstabilisée. Il me manquait une étape, c'était très troublant.
Oui, complètement. C'est-à-dire qu'elle a changé de nid sans avoir le temps de considérer l'ancien nid, sans peut-être trier tellement les choses. Et il y a déjà le bouleversement de la naissance, l'inquiétude de la bronchiolite et le non-investissement du lieu avec un enfant qui est en bonne santé. Et tout ça. Donc là, ça a surajouté.
Claire Marin, quand on déménage, on quitte un espace familier, des lieux, des gens qui nous ont construits. On quitte les témoins des grandes étapes de notre vie.
Oui, on quitte ceux qui nous ont accompagnés, soutenus, et ceux qui nous connaissent, ceux avec qui les choses se font facilement. On peut juste rappeler comment habiter et habitude sont des termes qui sont très proches. Et en changeant d'habitation, on doit changer ses habitudes. Or, cette stabilité et cette confiance que l'habitude donne, elle est précieuse. Elle fait que les choses vont vite, qu'il y a une forme d'évidence dans notre existence. Donc, quand on change de lieu, il faut recréer des habitudes de vie et puis, effectivement, retisser les liens.
Et puis, il faut insister sur le fait qu'un déménagement, c'est également une renaissance.
Oui, ça peut être.
C'est parfois douloureux, mais
tout à fait vécu comme un nouveau départ. Arriver dans un lieu neutre, ça peut aussi être une forme de soulagement, d'être incognito quelque part et de recommencer à zéro les relations avec les gens autour. Ça peut, dans certains cas, permettre de se débarrasser d'un passé qui a pu être lourd, de regards ou de jugements extérieurs qui devenaient trop pesants.
On peut se sentir comme un homard sans sa carapace, Marie-Claude Gavard.
Oui.
La maison étant une seconde peau.
Ah, tout à fait. Et donc, il y a une période de transition qui peut être difficile. Et c'est pour ça qu'on a intérêt, avant de déménager, d'essayer de s'approprier le nouveau lieu, le nouveau quartier, et organiser même des soirées. La pendaison de crémaillère est très importante à ce niveau-là.
Marie-Laure Zonshine.
Oui, on parlait de nostalgie. Alors, je ferai une analogie moyenne. Est-ce qu'un ancien logement, c'est comme un ancien compagnon ou un ami qu'on a quitté, c'est-à-dire on repasse devant et on se dit: ah bah ouais, il a pris un coup de vieux quand même, hein. Ou alors: ah non, finalement il a pas changé, enfin. Et puis d'ailleurs, est-ce qu'il faut retourner sur le lieu du crime?
Alors, du crime, bon. Alors je pense que ça vous appartient, hein, comme parce que non, tout dépend pourquoi on s'est séparé d'un compagnon et pourquoi on est parti.
Mais on a toujours un petit quelque chose quand on repasse devant cette maison,
un gros quelque chose même, mais c'est à analyser cas par cas, en fait.
Est-ce qu'on nous donnerait vos horaires à la fin de l'émission?
Claire Marin, on peut transposer ce que vous expliquez dans la séparation amoureuse dans votre livre Rupture. Je crois que vous préconisez de ne pas revoir ses ex, il me semble, si j'ai
dit ça.
Non, pas de cette façon-là, pas de cette façon-là, mais.
Ceci dit, ça pourrait être.
Mais est-ce que vous conseillez de ne pas revenir sur les lieux du crime, comme le dit Marie-Laure Sunshine?
Ben, je crois que ce qui est très troublant, c'est de repasser devant un lieu qui a été familier, de ressentir une forte étrangeté. Le lieu a pu être investi différemment, la maison a pu être modifiée, on rajoute une annexe, on change le jardin, et de voir quelque chose dont on a été si proche devenir tellement étranger. Alors là, pour le coup, je ferai quand même la comparaison avec un ancien amant ou un ancien ami qui a tellement changé qu'on se dit comment j'ai pu tant tenir à cette personne.
Marie-Claude Gavard.
Alors très fréquemment, lorsqu'il y a eu rupture, on ne regrette pas. Et quelques années après, on dit bon, j'ai bien fait. Pour une maison, c'est pas forcé. Il peut y avoir des regrets et qui, en fait, on revisite son enfance et les moments heureux. Donc ça peut être quand même un peu différent.
Est-ce que le stress du déménagement est différent selon les âges, à 20 ans ou à 60 ans? Est-ce qu'on le vit de la même manière?
Ah non, pas du tout. Pas du tout. Parce qu'on peut imaginer qu'à 20 ans, c'est vraiment la porte de la liberté qui s'ouvre et un changement de vie. On s'approprie sa nouvelle vie de couple, etc. À 60 ans, c'est quand même l'âge de la retraite à peu près. Et donc, c'est un autre chemin très différent. Il y a moins la responsabilité des enfants. C'est un tête-à-tête en couple qui est beaucoup plus intense. Donc, non, c'est très différent. Ça peut être très investi. Enfin, les parents peuvent vivre leur vie amoureuse, de découverte, etc. Mais c'est très différent.
Marie-Laure Sunshine.
Oui, puis c'est le nid vide. Hein, les parents qui se retrouvent, vous l'avez dit, en tête-à-tête et qui conservent ou pas, d'ailleurs, une espèce de pièce comme ça, de mausolée avec tous les objets, toutes les choses appartenant à leurs enfants, pourtant devenus grands.
Et souvent, ils prennent un appartement plus petit, ce qui symboliquement, quand même, veut dire une image un peu rétrécie de soi-même.
Alors Claire Marin, j'ai repéré un chapitre dans votre livre, Rompre avec sa famille, une rupture qui passe souvent par un déménagement, je vous cite, rompre le lien pour s'accorder à soi, une zone d'existence, construire ou reconstruire un espace intime.
Oui, c'est toute la problématique d'avoir un lieu à soi ou une chambre à soi, hein. C'est-à-dire un espace où on devient autonome, qui symboliquement va représenter le passage à l'âge adulte et qu'on va investir comme on le souhaite. Et c'est ce détail-là de la manière dont on décore ce nouvel espace est très représentatif. On sait bien comment la manière dont on investit l'espace dans la décoration, les objets, etc. est le reflet de quelque chose de plus intime.
Marie-Claude Gavard, Simone par mail nous dit qu'il est difficile pour elle d'aménager dans une maison qui a été habitée. Avec ce sentiment peut-être de déloger les anciens occupants.
Oui, mais peut-être que ces occupants sont bien heureux de partir. Hein, peut-être elle peut penser comme ça. Et on le voit, beaucoup de personnes font un nettoyage très très à fond des nouveaux lieux, comme pour exorciser la présence passée et s'approprier un espace qu'ils veulent purifier et neutre.
Anaïs nous dit, fille d'expatriée, j'ai aujourd'hui 43 ans, j'ai vécu plus de 35 déménagements entre différents pays éloignés de milliers de kilomètres. Les conséquences à ce jour, je ne parviens plus à m'attacher aux gens car en moi subsiste ce garde-fou du « je vais les perdre forcément » et une manie matérielle de garder des objets qui semblent parfois sans importance car cela me rassure. Aujourd'hui, il ne faut absolument plus me parler de déménager, cette idée me stresse intensément.
Oui, parce qu'en fait, là on voit que le lien, les liens qui sont habituels et qui nous construisent n'ont pas pu être perdurés ou très peu de temps. Donc l'inconscient protège en disant surtout plus de liens.
Éric Thibiot.
Oui, vous disiez tout à l'heure qu'il y a des gens qui exorcisent la présence qui était avant dans une maison. Et tout d'un coup, je me rends compte qu'il y a énormément de films où, si effectivement les personnages investissent une maison, quasiment investissent les personnages. Et en général, ce sont des films d'horreur.
Oui, il y a les fantômes.
Donc, est-ce qu'il y a un rapport comme ça à ce point traumatisant entre une maison qui serait vivante et qui créerait chez les personnages des choses particulières?
Ah oui, tout à fait.
Symboliquement, j'imagine.
Mais symboliquement, et pas seulement symboliquement, puisque on peut faire brûler, je crois, du papier d'Arménie, etc., pour purifier des lieux. Donc ce n'est pas que symbolique, semble-t-il.
Bonjour Patricia Fouché, vous êtes responsable du service juridique à l'Institut National de la Consommation. Quels sont vos conseils pour qu'un déménagement se passe le mieux possible? Quels sont les conseils juridiques fondamentaux?
Alors, anticiper le plus possible, déjà pour des raisons de coût, puisque certaines périodes sont plus fortes sont plus chères que d'autres, et surtout savoir quel investissement on peut faire, quelle distance on doit parcourir de l'ancien logement jusqu'au nouveau logement pour finalement déterminer quelle formule je vais prendre. Est-ce que je vais prendre une formule avec le recours à des amis, etc., ou vais-je faire un recours à une entreprise? Alors, à partir de là, il faut savoir, et ça c'est très important, que maintenant, il y a beaucoup d'offres qui sont faites sur via Internet, hein, via des plateformes de mise en relation. Donc, la règle numéro une, en quelque sorte, c'est de choisir un déménageur professionnel. Et pour s'assurer qu'il s'agit bien d'un déménageur professionnel, eh bien, c'est de vérifier qu'il est bien inscrit sur le registre des entreprises de transport routier. Comme cela, en cas de difficulté, il y aura des recours. Méfiance par rapport au travail dissimulé, puisqu'il y a des offres qui proposent de déménager vraiment de manière low cost, mais en cas de retard ou de casse, eh bien, le consommateur n'aura aucun recours. Donc ça, c'est la première règle. Alors, la deuxième règle d'or aussi, c'est que les prix sont libres. Donc, à partir de là, il est possible de faire, disons, trois devis, hein, choisir trois entreprises qui appartiennent à des réseaux ou à des fédérations telles que la Chambre syndicale du déménagement, par exemple. Et pour réaliser ces devis, règle numéro 3, c'est de bien évaluer le cubage. Alors, pour cela, maintenant, c'est vrai qu'on recourt beaucoup à Internet, mais le calcul du cubage sur Internet, si c'est moi qui déménage qui le fait, eh bien si je me trompe, les coûts supplémentaires seront à ma charge. Donc règle d'or numéro 4, c'est de faire intervenir un maîtreur, un commercial de l'entreprise, pour que l'entreprise effectue le cubage. En cas de problème, c'est elle qui devra supporter les charges supplémentaires.
En quelques mots, voilà, comment se présente Patricia Fouché le contrat de déménagement? En quelques mots.
Alors, en quelques mots, c'est ce qu'on avait appelé la lettre de voiture qui va reprendre les éléments qui sont contenus sur le devis et qui va déterminer donc toutes les modalités du déménagement, donc le lieu de départ, le lieu d'arrivée, les délais aussi, hein, parce que parfois, pour les longues distances, eh bien, il va s'écouler une à deux journées. Cette lettre de voiture va être signée par les deux parties, va comporter l'ensemble des éléments liés à la responsabilité du professionnel et au final c'est sur ce document-là dont l'un des exemplaires constituera le bulletin de livraison sur lequel le consommateur pourra noter ses éventuels recours.
Doit-on se fier, pour terminer Patricia Fouché, au déménagement entre particuliers très en vogue en ce moment ?
Alors, c'est effectivement très en vogue. Pourquoi pas pour des petites distances, pour des petits volumes, mais attention aux conditions d'assurance, notamment déjà par rapport à la question du transport lui-même. Attention s'il y a des personnes qui se blessent. Donc bien se renseigner sur les conditions d'assurance. Et encore une fois, si le déménagement est d'un volume assez important, mieux vaut faire appel à des transporteurs professionnels.
Merci beaucoup Patricia Fouché. On peut retrouver la fiche très pratique, hein, 20 questions sur le déménagement sur le site inc-conso.fr qu'on peut retrouver sur notre page Facebook. Pour terminer, Marie-Claude Gavard, Claire Marin, comment vivre au mieux un déménagement?
Alors, moi j'aimerais dire un petit mot par rapport aux animaux domestiques. Il faut notamment au niveau des chiens leur faire le tour du nouveau quartier et mettre leurs objets, et même les chats l'amener plusieurs fois dans l'appartement et mettre leurs objets comme ça. Et le jour du déménagement, peut-être les isoler dans une pièce pour pas qu'ils soient trop stressés.
Votre conseil pour vivre au mieux un déménagement ?
Le préparer et savoir que chacun le vit à son rythme et respecter la peine des enfants.
Claire Marin.
Ben, à propos de la peine des enfants, on peut peut-être se dire aussi qu'il y a des situations plus tragiques que celles qu'on a évoquées, où des enfants changent de chambre d'hôtel tous les soirs, ils savent pas où ils vont dormir. Donc il y a d'autres déménagements de ce type pour lesquels on peut avoir une petite pensée.
Jocelyne, notre auditrice fil rouge, en quelques secondes, votre conseil essentiel quand on déménage?
Pensez aux 3 jours du déménagement, le jour avant, le jour et le jour après, parce que le jour avant, tout est fermé, tout dans les cartons. Mmh. Le jour J, on toute la maison. Et le lendemain, bah, il faut souffler un peu avant de prendre la route et être entouré de personnes bienveillantes qui s'occupent de vous, du repas, du linge, etc. C'est très agréable. Mais d'un côté matériel, lister tous les cartons, noter les contenus dessus. Comme ça, quand on est dans le nouveau logement, tout va directement dans la chambre qui va bien, dans la pièce qui va bien. Et c'est pratique pour les parents.
Merci Marie-Claude Gavard, on peut lire chez Marabout, mais qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Merci Claire Marin, votre livre Rupture est publié aux éditions de l'Observatoire. Demain après-midi, que se passe-t-il dans la tête de nos animaux?